Mesdames et messieurs, j'ai le privilège de traiter ce soir le sujet de la prophétie biblique, une preuve pour l'existence de Dieu. Vous allez voir donc le lien avec la conférence de hier soir, où nous avons posé la question « Est-ce que Dieu est une projection du cerveau ?» Maintenant, d'une façon positive, la prophétie biblique, une preuve pour l'existence de Dieu. La prophétie accomplie en rapport avec Jésus-Christ, Israël et l'histoire mondiale est un phénomène stupéfiant. Par la prophétie accomplie, on peut prouver l'existence du Dieu de la Bible. Voilà le plan de ma conférence. Après une introduction, nous allons nous occuper de la question « La Bible ». A-t-elle été falsifiée? Ensuite, qui est le Dieu de la Bible? 3. Comment peut-on reconnaître que la Bible est la parole de Dieu? Et finalement, 4. La preuve prophétique et mathématique de Dieu. Eh bien, d'abord la question, la Bible a-t-elle été falsifiée? N'est-ce pas? Il faut s'exposer à la question cruciale et critique. La Bible a été recopiée en permanence. Il y a donc forcément des fautes dans ces copies. Peut-on vraiment attester qu'il s'agit encore aujourd'hui de la Bible originale? Quand il s'agit de cette Bible que nous avons dans nos mains. Eh bien, quelques explications d'abord. Fondamentale concernant la composition de la Bible. La Bible est composée d'une première partie appelée l'Ancien Testament, une collection de 39 livres écrits dans l'espace de 1606 avant Jésus-Christ, l'époque de l'exode d'Israël, du pays d'Égypte, jusqu'à 420 avant Jésus-Christ, l'époque du dernier prophète Malachie. Et voilà, l'Ancien Testament nous donne dans son ensemble une promesse. Le Messie, le Sauveur promis pour Israël et le monde entier, va venir. Et voilà, il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ est venu. Et par sa venue, il a accompli plus de 300 prophéties concernant le Messie souffrant. Ses disciples ont eu reçu la tâche pour écrire la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, une collection de 27 livres écrits dans l'espace de 32 jusqu'à 100 après Jésus-Christ, environ. Et voilà, le message central du Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, l'accomplissement de la promesse, le Messie est venu. Et le Messie, le Sauveur du monde, est Jésus-Christ. Eh bien, les écrits du Nouveau Testament, comme nous avons vu, rédigés entre 32 et 100 après Jésus-Christ, ont été copiés tout le temps. Aujourd'hui, nous possédons encore 5760 manuscrits grecs, environ. C'est fantastique. Et ces manuscrits viennent du 1er, 2e, 3e, 4e, etc. siècle jusqu'au 15e siècle, où finalement on a inventé l'imprimerie. Et voilà, c'était plus normal de copier à main. Donc on n'a plus fait des manuscrits. On a imprimé, mais on a donc des manuscrits même du 1er jusqu'au 15e siècle. De chaque siècle, nous avons des manuscrits. Cela est fantastique, car lorsque vous pensez à des classiques des Romains et des anciens Grecs, c'est souhaitable si on possède une dizaine de manuscrits pour une œuvre. Mais pour le Nouveau Testament, des milliers de manuscrits. En plus, nous possédons encore 10 000 manuscrits, environ, de traductions anciennes, comme en latin, en syriaque, en plusieurs dialectes coptes de l'Égypte, etc. Et voilà, j'aimerais encore mentionner particulièrement un manuscrit qui est appelé le P46, le papyrus 46. C'est un ensemble des lettres de Paul, l'épître aux Hébreux inclus. Et voilà, par ce savant coréen, Kim, ce manuscrit a été daté il y a quelques années par un travail soigneux à 75 à 100 après Jésus-Christ. Et voyez, donc une collection de 14 des 27 livres du Nouveau Testament venant de l'Égypte du 1er siècle, de l'époque des témoins oculaires. Et aujourd'hui, ce manuscrit P46 contient encore 80% du texte. Voyez, il y a des gens qui disent « Oui, au 4e siècle, l'Église a transformé totalement la Bible. » Mais c'est non-sens, parce que nous avons les manuscrits du 3e siècle, du 2e siècle, même du 1er siècle. Et nous pouvons prouver très facilement que la Bible n'a pas été transformée par l'Église. Ce n'est pas vrai. Les faits sont là. Voilà, quelques remarques concernant les écrits de l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu, et quelques parties en Daniel et Esdras et Jérémie en araméen. Voilà, là nous avons des milliers de manuscrits hébraïques datant du Moyen-Âge. On appelle ce texte le texte massorétique parce que les massorètes, ces rabbins, étaient des copistes particuliers. Ils comptaient des lettres et des mots. Par exemple, ils savaient dans les cinq livres, on trouve tel et tel chiffre, tant de fois, alors telle et telle lettre, tant de fois, alors on pouvait voir dans la copie si ça correspond. Et si ça ne correspondait pas, eh bien, il fallait chercher l'erreur. Donc, ils ont copié avec une perfection fantastique. Bien sûr, les critiques, ils ont dit, oui, mais on ne sait pas ce qui s'est fait avant le Moyen-Âge. Ils ont aussi copié soigneusement. Mais depuis 1947 jusqu'à 1956, ça a changé. Parce que dans ces années, on a trouvé les manuscrits du désert de Judée dans les grottes, dans les 11 grottes de Qumran. Et après, en plus, dans le Wadi Murapa'at, aussi dans le désert de Juda, et sur Massada, et tous ces manuscrits attestent l'exactitude de la transmission de l'Ancien Testament. Car nous avons maintenant des manuscrits qui datent du 1er, du 2e et même du 3e siècle avant Jésus-Christ, et aussi du 1er siècle après Jésus-Christ. Et par cela, nous pouvons prouver que ce texte massorète est vraiment le texte fiable qui remonte à l'époque de l'Ancien Testament. On peut vraiment dire avec Ésaïe, c'est une réalité, ce qu'il a dit déjà 700 avant Jésus-Christ, Ésaïe 48, « L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. » N'est-ce pas, on a trouvé le rouleau complet d'Ésaïe à Qumran, et ce verset s'y trouve aussi. Maintenant, nous allons poser la question, qui est le Dieu de la Bible? Eh bien, la Bible nous explique que le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et à l'espace. Plusieurs milliers de fois, il est appelé Yahweh en hébreu, celui qui est éternellement, celui qui ne change jamais, ou en français, c'est très bien traduit, Yahweh, c'est l'éternel. Et voilà, en Apocalypse 1, 4, ce nom Yahweh est décrit comme celui qui était dans le passé, celui qui est dans le présent et celui qui vient. C'est celui qui reste le même hier et aujourd'hui et en éternité. Hébreux 13. En plus Dieu dit en Jérémie 23, 24, « N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ?» dit l'Éternel. Donc, Dieu est immanent. Il est omniprésent et immanent. Il est partout dans la création, il est présent. Il n'est pas une partie de la création, n'est-ce pas? La Bible distingue entre Dieu et la création, déjà dans le premier verset. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu, c'est le sujet, et la nature, les cieux et la terre, c'est l'objet. Donc la Bible distingue entre sujet et objet quand elle parle de Dieu et de la création. Mais Dieu est présent dans toute la création, omniprésent. En plus, il est aussi à l'au-delà. Pas seulement dans la création. C'est l'Éternel. Et en 2 Pierre 3, verset 8, il est dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est-à-dire, Dieu n'est pas soumis au temps et n'est pas soumis à l'espace, puisqu'il est omniprésent. N'est-ce pas? Dans le passé, c'était dur à accepter sans la foi ce qui est dit là dans ce verset, parce qu'on pense, mais le temps, c'est quelque chose qui est objectif. N'est-ce pas? Les secondes sur ma montre, ça continue, et on ne peut plus aller en arrière. Mais c'est objectif. Mais comment on peut dire, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, mais tandis que le temps est absolu? Il fallait attendre jusqu'à Albert. Je parle d'Albert Einstein, n'est-ce pas? Qui a montré que le temps, ce n'est pas quelque chose qui est absolu. Le temps est lié directement à l'espace, et aussi à la gravité, et aussi à la vitesse avec laquelle on bouge dans l'espace. Mais Dieu, qui est omniprésent, pas soumis à l'espace, il n'est pas soumis au temps, il est éternel. Alors, troisième question, comment peut-on reconnaître que la Bible est la parole de Dieu? Eh bien, un moyen excessivement important, c'est la prophétie accomplie, qui est en quelque sorte le sceau de Dieu sur la Bible. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais dire quelques mots sur Dieu et les prophéties. Nous avons ici de nouveau l'axe du temps, le passé, le présent et le futur. N'est-ce pas? Nous qui sommes maintenant au présent, nous pouvons, en ce qui concerne le présent et du passé, nous pouvons dire des déclarations fiables. Pas toujours, mais c'est possible, n'est-ce pas? Mais en rapport avec le futur, ça devient beaucoup plus difficile. En ce qui concerne le futur, l'homme échoue lamentablement quand il veut faire des déclarations fiables, parce que nous sommes des créatures liées au temps et à l'espace. Donc pour la vraie prophétie, il faut quelqu'un qui fait pas partie du temps et de l'espace. Quelqu'un qui est omniprésent et qui est éternel. Un exemple, comment l'homme n'est pas capable de dire vraiment l'avenir. Exposition universelle de 1893 à Chicago. Des spécialistes, des scientifiques, des experts en sociologie ont expliqué à cette époque comment ils voyaient la vie 100 ans plus tard. Les hommes, ils ont dit, vivront jusqu'à 150 ans. Pas tout à fait. Deux, les gouvernements seront de plus en plus simples. Parce que la vraie grandeur s'épanouit toujours dans le sens de la simplicité. Voilà, votre réaction me dit tout. Vous n'êtes pas d'accord. 3. Les prisons seront inutiles. On ne sait plus où mettre les criminels. 4. Les divorces ne seront plus nécessaires. Et cela, ils n'ont pas dit parce qu'ils pensaient qu'on va plus se marier, mais ils ont pensé qu'on va savoir résoudre des difficultés. Le contraire est vrai. Alors, la prophétie accomplie peut nous montrer que derrière la Bible, il y a le vrai Dieu qui a inspiré les écrivains de la Bible, parce que lui seul peut connaître avec exactitude l'avenir. Dans la Bible, un prophète qui se trompait une seule fois, il était considéré comme étant pas un prophète de l'Éternel. Deutéronome 18. Pas un prophète de celui qui était, celui qui est et celui qui vient. D'ailleurs, 77 fois, on trouve dans le livre du prophète Ézéchiel le refrain avec variation suivant. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, Dieu prédit une chose et ensuite il dit, lorsque cela va se réaliser, vous saurez que je suis l'Éternel. 77 fois. Donc, c'est vraiment un chiffre parfait pour nous expliquer. Voilà, la prophétie accomplie nous aide à connaître l'Éternel. En Ésaïe 41, 23, l'Éternel, le Dieu de la Bible, dit « Ô Dieu des autres religions, déclarez les choses qui vont arriver dans la suite, et nous saurons que vous êtes des dieux. » Donc, il faut s'adresser aux adhérents des autres religions du monde. Est-ce que vous connaissez la vraie prophétie accomplie? Parce que ainsi on peut reconnaître si derrière l'hindouisme, derrière le bouddhisme, derrière l'islam, etc., il y a vraiment l'Éternel, le vrai Dieu qui est omniprésent et éternel. Et là, je dis déjà à l'avance, la Bible est le seul livre au monde qui peut faire des déclarations absolument fiables et détaillées sur le futur. N'est-ce pas? On a dans toutes les religions, on a les prophètes. Par exemple, on avait aussi l'oracle de Delphi chez les anciens Grecs. Mais là, voilà l'anecdote suivante qui explique la façon de cette prophétie. Le moins de détails possible et aussi général que possible. Par exemple, un roi serait... avant la guerre, aller à Delphi ou à envoyer une délégation à Delphi pour savoir s'il doit aller en guerre. Et voilà, l'oracle de Delphi a dit, tu vas détruire un royaume. Non. Il se dit, je vais faire la guerre. Et voilà, il a perdu. Terriblement. Cette guerre, c'était une catastrophe. Alors, il est allé à Delphi pour demander, « Mais qu'est-ce que vous avez prophétisé ?» Ils ont dit, « Mais on a dit la vérité. On a dit, tu vas détruire un royaume. »« Oui, mais je n'ai pas gagné. »« Oui, mais on n'a pas dit quel royaume. » Eh bien, nous allons reconnaître Dieu par l'accomplissement des prophéties bibliques. Et un aspect de la prophétie, c'est la prophétie messianique. N'est-ce pas? Jésus-Christ, par sa venue il y a 2000 ans, a accompli plus de 300 prédictions de l'Ancien Testament sur le Messie. Et le Messie, c'est le sauveur promis dans l'Ancien Testament pour Israël et pour tous les peuples du monde. Et je me rappelle qu'à 14 ans, j'ai reçu comme cadeau un livre d'un juif américain, John Meldau. Le Messie dans les deux testaments. Et ce juif croyant a bien expliqué que Jésus-Christ est vraiment le Messie promis de l'Ancien Testament. Et dans ce livre, il parle de plus de 300 prophéties accomplies. Mais malheureusement, il a traité seulement une partie. Et je n'ai pas trouvé un livre complet sur ce sujet. Alors je me suis dit, je vais faire pour moi une collection. Et j'ai étudié tout l'Ancien Testament. Et chaque fois lorsque j'ai trouvé de nouveau une prophétie qui est accomplie en Jésus-Christ, j'ai mis ça dans ma liste. J'ai commencé vraiment 1, 2, 3, et finalement je suis arrivé à 2, 299, 300, 301, 302, etc. Vous pouvez vous imaginer combien ça m'a affirmé ma foi à cet âge-là, pour voir que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et j'ai vu aussi dans les discussions à l'école avec les autres élèves et aussi avec, par exemple, le professeur d'allemand. Là, on discute souvent du monde et de Dieu, etc. Alors, j'ai vu qu'ils n'ont aucune chance pour argumenter contre l'argument de la prophétie accomplie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, finalement, j'ai fait mon travail pour la fin de l'école en histoire sur le Messie, la prophétie messianique, et ça c'est devenu mon premier livre. Et voilà, les prophéties sont tellement détaillées. Le Messie devait être un descendant de David, ce qu'on pouvait à l'époque prouver par l'archive centrale des généalogies à Jérusalem. Il devait être né à Bethléem, il devait apparaître comme prince 32 après Jésus-Christ, il devait être rejeté par la masse du peuple, crucifié. Ensuite, la destruction de Jérusalem et du temple devrait avoir lieu. Ensuite, la dispersion des Juifs parmi tous les peuples devrait être une conséquence du rejet et une persécution permanente des Juifs, ce qui s'est accompli à la lettre. En plus, on a les prophéties sur l'histoire mondiale. Et cela à travers toute la Bible. Mais si on prend seulement le livre de Daniel, écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on peut aussi bien prouver, parce que nous connaissons aujourd'hui exactement comment on a parlé l'hébreu au VIe siècle avant Jésus-Christ, et comment était la grammaire et l'orthographe au IIe siècle avant Jésus-Christ, ou au Ier siècle après Jésus-Christ. Eh bien, le livre de Daniel dans la Bible est écrit vraiment dans l'hébreu du VIe siècle et l'orthographe de cette époque. Et l'araméen, les parties araméennes, c'est la même chose. On connaît aujourd'hui l'araméen du VIe siècle, l'araméen du IIe siècle avant Jésus-Christ, du Ier siècle après Jésus-Christ, etc. Donc, on peut clairement prouver que le livre de Daniel est authentique. Et il y a encore beaucoup plus de preuves. J'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'intitule l'histoire mondiale dans le visier du prophète Daniel. Un livre qui vient d'être traduit en français et bientôt être édité. Et là-dedans, je traite 200 prédictions accomplies concernant l'histoire mondiale sur Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, la Syrie, l'Égypte, Israël. C'est fantastique. Et même dans leur succession chronologique, ça s'est accompli. Et on peut prouver ça par la littérature historique, comme je le fais dans ce livre. Un autre aspect de la prophétie, c'est la prophétie sur le temps de la fin. N'est-ce pas? Selon la Bible, le temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin de cette période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ. Et la fin des temps, c'est donc la dernière époque juste avant la deuxième venue de Jésus-Christ qui devrait être caractérisée par le retour des Juifs du monde entier, ce qui s'est réalisé depuis 1882, où les premiers Juifs en masse ont commencé à immigrer au pays des ancêtres. Et voilà là, je suis en train d'écrire un livre où je traite plus de 160 prédictions accomplies entre 1882 et aujourd'hui, en rapport avec le temps de la fin. Donc personne ne pourrait dire, oui, mais ces livres bibliques ont été écrits après l'accomplissement. Ah, non. Vous pouvez prendre la Bible de votre grand-mère pour montrer le contraire. C'est aussi déjà écrit là-dedans, ou de vos ancêtres encore avant, plutôt. Eh bien, j'aimerais donner des exemples de la prophétie messianique d'abord. Le moment exact de la venue du Messie, Daniel 9, 25. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole, pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. Eh bien, cette prophétie a été donnée au 6e siècle avant Jésus-Christ, où Jérusalem était en ruine. Alors, la prophétie dit, depuis la sortie de la parole, depuis la sortie d'un édit, pour rebâtir Jérusalem, on peut calculer jusqu'à la venue du Messie comme prince. Et là, il y aura un laps de temps de 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. Eh bien, nous savons exactement quand cet édit a été déclaré. C'était par le roi perse Artaxerxès, en Néhémie 2, c'est décrit, 445 avant Jésus-Christ. Il a donné la permission à Néhémie de rebâtir Jérusalem. Donc, à partir de cette époque, on devrait calculer ces, en tout 69 semaines d'années. Qu'est-ce que c'est une semaine d'année? Eh bien, nous savons ce que c'est une semaine de jours, une période de 7 jours. Une semaine d'année, c'est une période de 7 ans. En plus, il faut savoir que les années prophétiques de la Bible sont des années de 360 jours. Ça, vous pouvez par exemple déduire d'Apocalypse 11 où 3 ans et demi sont égales 1260 jours. Donc, une année 360. Et voilà, on peut alors calculer les 69 semaines d'année en jours. 69 fois 7 fois 360 jours, ça fait 173 880 jours. Eh bien, aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est assez facile de calculer les jours entre mars-avril 445 avant Jésus-Christ. N'est-ce pas? Cet édit du roi perse était annoncé au mois de Nissan. Et Nissan, ça correspond dans notre calendrier à mars-avril. Alors, mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à mars-avril 32 après Jésus-Christ, car Jésus-Christ est entré comme prince au jour des palmiers à Jérusalem. Et il était reçu par le peuple comme roi, Messie, c'était à l'an 32 après Jésus-Christ, dans le mois de la Pâque. Mars-avril, Nissan. D'ailleurs, pourquoi 32 après Jésus-Christ? C'est tout facile. Luc 3 nous dit que en la 15e année de l'empereur Tibère, Jésus-Christ a commencé son service public. Vous prenez un lexique, vous allez voir, l'empereur Tibère, il a commencé à régner 14 après Jésus-Christ. Donc, 14 et 15 fait 29. Dans la parabole de Luc 13, 6 à 9, vous lisez des trois années pendant lesquelles le Seigneur Jésus a fait son service et il a cherché du fruit du figuier d'Israël. Eh bien, 29 plus 3, 32. Et avec l'ordinateur, c'est facile de calculer les 173 880 jours se placent exactement et très bien dans l'espace de mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à mars-avril 32 après Jésus-Christ. Deuxième prophétie, meurtre du Messie. Daniel 9 continue, le Messie sera retranché et n'aura rien. 5 jours après son entrée comme prince à Jérusalem, la masse a crié devant Pilate, crucifiez-le. Et Jésus-Christ a été crucifié sur le rocher de Golgotha devant les remparts de Jérusalem. Et voilà, troisième prophétie, destruction de Jérusalem. Dans la suite, car Daniel 9 continue, « Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. » Et voilà, quelques années après la crucifixion, en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit totalement Jérusalem, avec plus d'un million de morts parmi le peuple juif. Et voilà, l'arc de triomphe de Titus à Rome existe encore aujourd'hui comme un mémorial de la destruction de Jérusalem. Quatrième prophétie, destruction du temple. Daniel 9, 26 nous dit pas seulement le peuple du prince qui viendra détruire la ville, mais continue, et le lieu saint. Il est remarquable que Titus, à l'an 70, voulait épargner le temple à Jérusalem. Il voulait seulement détruire la ville. Mais dans l'escalade de la guerre, ça n'allait plus selon sa volonté et les soldats ont finalement détruit complètement le temple. Comme la Bible l'a prédit, les Romains ont détruit pas seulement la ville, mais aussi le second temple. Cinquième et sixième prophétie, perte du pays et dispersion mondiale. En Deutéronome 28, 63, Moïse décrit les conséquences. Et cela, à l'an 1566 avant Jésus-Christ. Et vous serez arrachés de dessus la terre, où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Moïse avait donné cette prophétie juste avant que Israël sous Josué ait entré dans le pays de la promesse, après la sortie de l'Égypte. Et déjà là, il annonce qu'ils vont perdre ce pays un jour pour être dispersés parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Donc, des extrémités des continents jusqu'à l'autre. Donc, de l'Amérique du Nord jusqu'en Australie, de l'Amérique du Sud jusqu'en Chine et Japon. Maintenant, quelques exemples de la prophétie sur l'histoire mondiale. J'ai choisi les exemples de mon livre qui va paraître bientôt en français, du chapitre 11 de Daniel. Voyez, Daniel 11, 2 à 35, j'ai compté une fois toutes les prophéties et j'ai trouvé plus de 150 prophéties seulement dans ce texte-là, qui prédisent l'histoire de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au temps des Maccabées, donc du 6e siècle, l'époque de Daniel, jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ici, vous voyez une des cavernes, une des grottes de Qumran. À Qumran, on a trouvé plusieurs manuscrits de Daniel. Et ce qui a montré que dans le judaïsme, ce livre était bien aimé. Parce que dans cette époque du 6e au 2e siècle, on pouvait toujours suivre les prophéties et puis on savait, ah, maintenant on est là dans cette phrase. Et maintenant, ah, déjà cette phrase s'est accomplie. On pouvait suivre le texte suivi selon les générations qui sont décrites dans cette prophétie. N'est-ce pas? Ce qui va suivre, c'est très compliqué. Donc, je n'attends pas que vous allez retenir tout cela. Mais il faut une première fois simplement se lancer dans cette prophétie. Plus tard, vous pouvez lire le livre et reprendre autant qu'on veut. Alors, d'abord, la prophétie de Cyrus, qui était roi de Perse à l'époque où Daniel a écrit cette prophétie. Daniel 11, verset 2, voilà, Dieu révèle. « Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore trois rois en Perse. Et le quatrième deviendra riche de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il exitera tout contre le royaume de la Grèce. » Daniel a donc reçu ses prophéties au temps du roi Cyrus, dans sa troisième année, c'est-à-dire 537 avant Jésus-Christ. Par conséquent, les quatre rois de Perse qui se trouvent ici, dans le viseur de la prédiction, sont les souverains suivants. Après Cyrus, dans l'histoire, c'était Cambyse, 530 à 522. Ensuite, Gomata, ou Pseudo-Smerdis, qui avait régné quelques mois dans l'an 522. Ensuite, Darius I, Istaspès, 522 à 486 avant Jésus-Christ. Ensuite, Xerxès I, le mari d'Esther, 446 à 465 avant Jésus-Christ. Donc, le quatrième qui sera un roi excessivement riche, c'est Xerxès I. Effectivement, dans l'histoire mondiale, nous savons que Xerxès I a ramassé des richesses comme on n'a jamais vu auparavant. Et c'est exactement comme il est dit ici. Et lorsque Xerxès I était devenu excessivement riche, il s'est dit, maintenant, je vais conquérir encore la Grèce. Il avait déjà un royaume depuis l'Afrique jusqu'en Inde, mais il voulait aussi l'Europe, un bout de l'Europe. Et il a fait les guerres perses contre les Grecs. Ça, vous avez appris à l'école, vous vous souvenez? Mais c'est exactement ce qui est dit là dans le texte. Xerxès I s'acquit une fortune inimaginable, j'écris dans mon livre. Grâce à cela, l'Empire perse parvint à l'apogée de sa puissance. Cependant, Xerxès aurait aussi bien volontiers incorporé la Grèce à son empire. Son père l'avait déjà essayé deux fois en vain. Il entraîna donc presque toute l'Asie connue. Alors, dans le mouvement contre les Grecs, or, dans la célèbre bataille navale de Salamine, 440 avant Jésus-Christ, Xerxès I subit une défaite injurieuse et profondément humiliante. Cette guerre occasionna pour lui des pertes indescriptibles en vie humaine et en richesse. Daniel 11, verset 3. Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir. Daniel 11, verset 3, présente le conquérant de l'Empire perse. Et 11, 2, que nous venons de voir, donne la raison essentielle de sa série de conquêtes. Même si la bataille de Salamine représentait un immense triomphe pour les Grecs, elle leur laissa des cicatrices profondes. Ainsi, environ 150 ans plus tard, Alexandre le Grand partit pour se venger des Perses. Et c'est lui, donc ce roi vaillant, qui se lèvera et exercera une grande domination et agira selon son bon plaisir. Voilà, Alexandre le Grand. On sait même quelle sorte de nez il possédait, selon les fouilles archéologiques. Daniel 11, verset 4. Et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les quatre vents des cieux et ne passera pas à sa postérité et ne sera pas selon la domination qu'il exerçait, car son royaume sera arraché et sera à d'autres. Outre cela. Eh bien, je commente, le succès d'Alexandre le Grand ne dura qu'un peu plus de 10 ans. Vers 323 avant Jésus-Christ, il succomba au paludisme, comme il semble. Lorsqu'il avait donc tout conquis depuis l'Europe, depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Inde. Il laissa à sa mort un fils du nom d'Hercule. Un autre fils est né peu après, mais les deux furent tués par la suite. Ainsi, les généraux d'Alexandre et leurs successeurs répartirent le grand héritage après de rudes batailles entre eux. L'Empire grec fut morcelé et divisé vers les quatre vents des cieux. Et donc, sa postérité n'a rien reçu, comme la prophétie le dit. Et vous voyez, là, les grandes parties après la mort d'Alexandre le Grand. Et vous voyez l'empire de Ptolémée, au sud, l'empire de Séleucos, en est, très grand, n'est-ce pas? La Syrie qui va jusqu'en Inde. Et l'empire de Cassandre, à l'ouest, et l'empire de Lysimaque, au nord. Vous voyez, c'est nord, sud. C'est exactement selon les quatre directions du vent. Dans la suite, la Syrie, c'est-à-dire cet empire-là, le plus grand empire des parties, l'empire, la Syrie et l'Égypte sont dans le viseur de la prophétie. Dans les versets suivants, la prophétie de Daniel s'occupe uniquement de la Syrie et de l'Égypte, parce que ces deux pays allaient jouer un rôle très important dans l'histoire du peuple d'Israël, du peuple choisi. En effet, après Alexandre, le pays d'Israël devint comme une balle que se renvoyèrent ces deux grandes puissances. À cette époque, les Juifs eurent à souffrir indiciblement. Vu depuis Israël, la Syrie se trouve au nord. Ainsi, le souverain du moment de ce pays est désigné chez Daniel comme le roi du nord. Analogiquement, le souverain du moment en Égypte est désigné comme le roi du Midi, le roi du Sud. Voyez, le roi du Nord, le roi du Midi, et au milieu, le pays d'Israël. Ici, je vous donne une liste de toutes les générations des rois en Égypte, de cette époque qui est décrite prophétiquement en Daniel 11, et de la Syrie. Et voilà, vous pouvez suivre toutes ces générations selon la prophétie en Daniel 11, selon la succession des versets. Je continue. Daniel 11, 5. « Et le roi du Midi sera fort. » Il s'agit ici de Ptolémée, un Sauter. Vous voyez, c'est le premier dans la liste des rois de l'Égypte. Le roi du Midi est ici Ptolémée, un Sauter. C'était le plus doué des généraux d'Alexandre le Grand. Après sa mort, il se fit souverain d'Égypte et fonda la dynastie ptolémaïque. Vers 320 avant Jésus-Christ, il s'empara de la Phénicie, de la Chaldée, Syrie et d'Israël, et étendit ainsi son pouvoir. Voilà, le roi du Midi sera fort. Je continue. Et un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera une grande domination. Séleucos, un Nicator, un ancien commandant en chef du roi Ptolémée, un de ses chefs, se mit à son compte vers 312 avant Jésus-Christ et obtint la domination sur la Syrie. Il fonda la dynastie des Séleucides. Son empire fut le plus grand des empires des Diadoques, comme on appelle les successeurs d'Alexandre le Grand. Je continue, Daniel 11, verset 6. Et au bout de plusieurs années, ils s'uniront ensemble, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour faire un arrangement droit. Dans ce verset, il ne s'agit plus des deux rois cités avant, en 11, 5, mais de leurs descendants, Ptolémée 2 et Antiochos 2. Le saut temporel est indiqué par et au bout de plusieurs années. Voyez ? Pour mettre fin au conflit sanglant de plusieurs années de guerre entre l'Égypte et la Syrie, les deux maisons royales essayèrent de s'associer. Vers 252 avant Jésus-Christ, Antiochos II, de la Syrie, roi du Nord, répudia sa femme Laodice et se maria avec Bérénice, la fille du roi d'Égypte. Ptolémée 2, exactement comme le texte le dit. Mais c'était un échec total. Il résulta finalement une catastrophe de ses efforts en faveur de la paix. Intenable sur le plan éthique, par vengeance, Laodice fit empoisonner son ex-mari Antiochos II quelques années après son mariage avec Bérénice, ainsi que le jeune fils né de cette union. Après cela, Bérénice, avec quelques fidèles, s'enfuit à Daphné, près d'Antioche. Séleucos II, le fils de Laodice, l'a suivi, prit cette ville et tua Bérénice et sa suite. Ptolémée II, le père de Bérénice, mourut aussi à cette époque. Ces événements avaient été annoncés en 11-6 BC. Mais elle, Bérénice, ne conservera pas la force de son bras, parce qu'elle a dû s'enfuir, et il, Antiochos II, ne subsistera pas ni son pouvoir. Et elle, Bérénice, sera livrée, elle, Bérénice, et ceux qui l'ont amenée, donc ses fidèles, et celui qui l'a engendrée, c'est Ptolémée II, et celui, Antiochos, qui lui aidait dans ces temps-là. N'est-ce pas? En quelque sorte, le texte en soi est un peu mystique, mais lorsque l'accomplissement vient, chaque mot est compréhensible. Daniel 11, verset 7. Pas de peur, je ne vais pas suivre jusqu'à 35, hein, n'est-ce pas? C'est seulement quelques exemples. Daniel 11, verset 7. « Mais d'un rejeton de ses racines se lèvera à sa place un homme, et il viendra à l'armée et il entrera dans la forteresse du roi du Nord. Et il agira contre eux et se montrera puissant. » Ptolémée 3. Et Vergète reprit la domination de son père, Ptolémée II, en Égypte. Puisqu'il était le frère de Bérénice, un rejeton de ses racines. Voyez ? Donc, en parallèle, c'est un frère. C'est-à-dire de la même famille. Il voulut la venger. Il mobilisa une armée puissante et, dans une série de batailles, vainquit Séleucos II Kalanikos. Ptolémée III s'empara, entre autres, aussi de la forteresse syrienne de Séleucie. Il entrera dans la forteresse du roi du Nord. Ensuite, Daniel 11, verset 8. « Et même il amènera captifs en Égypte leurs dieux et leurs princes avec leurs objets précieux, l'argent et l'or, et il subsistera plus d'années que le roi du Nord. » Quand une révolte éclata à Cyrène, Ptolémée III dut revenir en Égypte. Toutefois, il prit avec lui un butin impressionnant, trésor immense, sanctuaire innombrable et idole, ainsi que beaucoup de prisonniers de haut rang en Syrie. Par conséquent, la lutte se calma entre la Syrie et l'Égypte pour quelques années. Et encore, Daniel 11, verset 9, contre-offensif de la Syrie. Et celui-ci viendra dans le royaume du roi du Midi et il retournera dans son pays. Vers 242 avant Jésus-Christ, Séleucos II tenta une contre-offensive militaire, mais il n'eut aucun succès. L'Égypte affirma sa position prédominante. Et encore, verset 10, « Mais ses fils s'irriteront et rassembleront une multitude de forces nombreuses. » Les deux fils du roi de Syrie, Séleucos II, Séleucos III et son frère Antiochos III, voulurent continuer la lutte contre l'Égypte. Ils embauchèrent une grande quantité de mercenaires pour mettre sur pied une grande armée et habile au combat. Et l'un d'eux viendra et inondera et passera la frontière. Et il reviendra et poussera le combat jusqu'à sa forteresse. Ensuite, en Daniel 11, 10, deuxième partie, il n'est plus question que de l'un des fils. En effet, vers 223 avant Jésus-Christ, Séleucos III a été tué par empoisonnement. La suite ne concerne donc qu'Antiochos III, vers 221, 219 et 218 avant Jésus-Christ. Il attaqua trois fois l'Égypte et franchit donc la frontière, comme le texte le dit, et passera la frontière. Franchit donc la frontière. Vers 221 avant Jésus-Christ, ces attaques furent freinées par les forteresses égyptiennes au Liban. 2 ans plus tard, il réussit à casser cette ceinture de défense et à prendre aussi Tyr et Acre. Daniel 11, 10 à la fin fait référence à ces attaques répétées contre les forteresses égyptiennes au Liban. Voilà, je suis conscient du fait que c'était un peu compliqué, mais c'est simplement pour donner une idée réelle comment cette prophétie est détaillée et parle vraiment de chaque génération, ainsi que les Juifs à l'époque pouvaient suivre la prophétie selon les versets dans le livre de Daniel.